Vous avez fait quoi, vous, depuis 218 jours ? Parce qu'à l'heure où cet épisode arrive sur vos plateformes d'écoute, cela fait 218 jours que Vladimir Poutine, le président russe, a lancé son offensive contre l'Ukraine. Et 8 jours depuis son annonce d'une mobilisation partielle de sa population. Officiellement, 300 000 réservistes pour renforcer ses troupes au combat. Dans les médias occidentaux et sur les réseaux sociaux, les reportages s'enchaînent. Contestations, manifestations, arrestations, mais aussi fuites de centaines de milliers de Russes à l'étranger. Bonjour, c'est Alexandra Cagnard. Aujourd'hui, Témoin d'actu s'interroge : un soulèvement populaire est-il possible en Russie ? L'une des personnes que vous allez entendre dans cet épisode se souvient très bien de l'annonce de la guerre le 24 février 2021. Denis Strelkov, qui est journaliste au sein de la rédaction en russe de RFI, était venu m'en parler dans ce podcast.
J'étais dans mon lit, à l'hôtel, même pas à 100 mètres de la place Maïdan, donc dans le plein centre de Kiev. Et puis, donc, c'est mon boss qui m'appelle et qui m'annonce cette nouvelle. Donc, la situation est vraiment compliquée. À ce moment-là, je commence un peu, même pas à paniquer, mais à penser, mais qu'est-ce qui se passe ? Comment je me suis retrouvé à Kiev le jour du début d'une guerre sans précédent et presque peut-être d'une troisième guerre mondiale à ce moment-là ?
Nous ne serons pas seuls à discuter parce que la boss dont parle Denis, c'est Elsa Vidal, rédactrice en chef d'un service qui, depuis 218 jours donc, alimente en continu le site de RFI en russe. Elsa et Denis, bonjour.
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 Denis, tu étais donc arrivé à Kiev quelques jours seulement avant le début des premiers bombardements. À l'origine, tu n'étais pas du tout parti en reportage pour couvrir cette guerre. Et si j'ai bien compris, il t'est arrivé sensiblement la même chose très récemment, mais cette fois lors d'un reportage en Finlande.
C'est un peu vrai. À vrai dire, on est tous un peu fatigués de vivre une page du manuel d'histoire par jour depuis près de 6 mois. Cette fois-ci, je suis parti en Finlande pour parler essentiellement d'un pays qui était vide des touristes russes parce que Lappeenranta, c'est une petite ville à côté de la Russie. C'est une ville qui était vivante à l'époque parce qu'il y a trop de voyageurs qui venaient chaque jour, principalement pour faire leur shopping, pour acheter des t-shirts qui venaient de l'Occident, qui étaient un peu moins chers qu'en Russie. Et cette fois-ci, donc, j'arrive dans un hôtel qui était absolument vide et on a l'impression d'aller dans, je sais pas, une ville qui sort un peu des séries télévisées. Il n'y a personne, il fait un peu nuit déjà, il fait froid. Et puis, à bout d'un moment, c'est Vladimir Poutine qui encore une fois, énonce une nouvelle terrible pour tout le monde. C'est une mobilisation partielle qui, après, s'est apparue comme n'étant pas tout à fait partielle, à vrai dire. Et il y a des Russes qui arrivent goutte par goutte dans cette ville-là. Le premier jour, il y a eu peut-être une dizaine, puis donc une centaine. Et maintenant, vous voyez des milliers de Russes qui passent par cette frontière entre la Russie et la Finlande chaque jour. Donc oui, j'ai observé et j'ai dû couvrir cette crise migratoire, encore une fois, sans précédent, à cette frontière.
La Finlande, c'est donc l'une des illustrations de ce qui se passe depuis cette annonce de la mobilisation aux frontières de la Russie.
Exactement. Puis, on ne peut pas dire qu'à cette frontière-là, il y a une vraie crise humanitaire, comme c'est le cas, par exemple, à côté de la Géorgie, à côté du Kazakhstan. Le vrai problème de cette frontière, c'est que seules les personnes qui ont des visas Schengen peuvent le franchir.
Je dois vous préciser que cet épisode a été enregistré avant l'annonce par la Finlande de la fermeture de ses frontières aux citoyens russes munis de visas de tourisme européens de l'espace Schengen.
Là, on peut parler d'1%, de 2% de la population, ça dépend des statistiques. Donc bref, uniquement tous ceux qui ont à la fois de l'argent pour aller jusqu'à Saint-Pétersbourg et puis qui ont ces fameux visas peuvent encore se rendre en Europe, ce qui nous amène à peu près une dizaine, peut-être une vingtaine de milliers de personnes qui passent cette frontière par week-end, donc à peu près 5-7 000 voitures, ce qui est beaucoup pour le Finlande, mais on est loin de la station à côté de la Géorgie.
Les gens qui arrivent, ceux que tu as interviewés, ils disent quoi ?
Il y a plusieurs types de personnes. Tout d'abord, ce qui m'a un peu étonné, juste après l'annonce de la mobilisation, quand je suis venu dans un supermarché construit pour les Russes, juste à quelques dizaines, même une centaine de mètres de la frontière, qu'il y en a plusieurs personnes qui sont venues faire leur shopping. Mais carrément fait leur shopping. Donc, je parle avec eux et ils prennent le bus pour repartir après en Russie. Donc, pour eux, la mobilisation, bon, c'est un risque. Ils ne pensent pas qu'ils seront affectés à cette armée-là. Et même s'ils sont affectés, ils pensent toujours qu'ils vont trouver des moyens pour échapper à aller faire cette guerre. Par contre, il y en a quand même pas mal et qui fuient effectivement la guerre, qui essaient de trouver tous les moyens et qui ont, le matin du 21 septembre, juste fait 2-3 valises, laissé leur appartement vide à Saint-Pétersbourg, qui ont franchi la frontière et qui ne savent pas du tout où aller.
Ces témoignages qu'on a entendus dans beaucoup de médias, y compris sur RFI, dans ces témoignages, il y en a qui vous ont frappé plus particulièrement parce que cette société russe, son fonctionnement, vous le connaissez bien. D'ailleurs, comment vous prenez du recul par rapport à tout ça ?
Eh ben, le recul, on le prend, je pense, à la fois en étant complètement plongé dans de l'actualité russe en permanence, à la rédaction, dans nos interactions avec nos amis ou nos parents qui sont en Russie ou dans l'ancien territoire soviétique, et puis, par moments, en se référant aussi à l'histoire, à des événements passés, en discutant avec des experts qu'on fréquente depuis des années, et en essayant aussi de faire des comparaisons entre cette crise et d'autres crises, de voir s'il y a des schémas qui se répètent, des schémas qui se différencient. Ça, c'est quand on essaye de prendre de la distance. Quand on revient sur les personnes interviewées par Denis, par exemple, en Finlande, moi, ce qui me frappe, et qui est assez récurrent de mon point de vue de française, ayant vécu et travaillé en Russie, c'est qu'on entend rarement des témoignages qui cherchent à exprimer ou qui expriment une solidarité à l'échelle de la société russe ou de la nation russe ou du peuple russe. Les gens sont avant tout impliqués dans des stratégies pour se mettre à distance eux-mêmes, protéger les leurs. On voit des solidarités en Russie, mais ce sont des chaînes de solidarité interpersonnelles. Et pour moi, c'est aussi le résultat de dizaines d'années d'actions de différents pouvoirs qui visent à isoler les individus et à leur faire perdre confiance, voire même à construire leur défiance vis-à-vis du fait politique. Quand vous avez des acteurs politiques qui, pendant des décennies, ont mis en œuvre des programmes extrêmement violents, sous couvert d'idéaux pseudo-humanitaires ou humanistes, vous construisez une défiance, une volonté de vivre le plus loin possible du politique. Et à contrario, vous empêchez l'établissement d'une solidarité et de la croyance que les citoyens, les simples citoyens, peuvent renverser la vapeur, se saisir de leur destinée collectivement.
Si je comprends bien ce que tu me dis, ça veut dire que on n'est pas en Russie dans un État qui fait nation, contrairement à, d'ailleurs, on en parlait, Denis, lors du premier podcast, tu disais, c'est vrai que les Ukrainiens sont unis et les Russes ne le sont pas du tout.
Oui, ils ne le sont pas encore. On pouvait peut-être douter du fait que même les Ukrainiens aient fait nation avant la guerre, parce qu'il y avait quand même une diversité politique et une vision de destin ukrainien assez forte. La guerre a arasé tout ça et même le président est devenu une figure très consensuelle, au moins à l'heure actuelle, pendant la guerre, du fait de son implication, de sa capacité à occuper tous les fronts et à trouver des alliés à l'Ukraine. En Russie, effectivement, pour moi, c'est très difficile de dire la Russie, les Russes, on devrait toujours faire attention à ce genre de généralisation. Mais en Russie, pour moi, effectivement, un des problèmes récurrents, c'est la manière dont se structure l'imaginaire politique. Et il n'y a pas une Russie. Il y a des cercles, il y a des groupes auxquels on appartient, des cultures et des sous-cultures. Et la solidarité, encore une fois, se fait par proximité. Et elle doit avoir un visage. Elle doit avoir un visage qu'on reconnaît. Le russe type anonyme n'existe pas.
Je pense que la solidarité se forme surtout pendant des crises. Et la Russie a bien évidemment connu des crises politiques, mais cela a été des crises qui n'ont pas été ressenties par l'ensemble de la population. Il y a une expression à Moscou qui existait, qu'à gauche, vous avez un restaurant et à droite, vous avez une arrestation. Donc ça, c'était une réalité qui était acceptée par la majorité des gens, même qui étaient plutôt contre les pouvoirs à Moscou. Mmh. Mais leur idée, c'était qu'est-ce qu'on peut faire réellement avec ce système. Par contre, maintenant, c'est très marquant pour moi ce qu'on voit un peu dans différents pays où il y a des Russes qui se réfugient, notamment en Géorgie, qui est maintenant un pays où vous avez une centaine de milliers de Russes, peut-être même plus à ce moment-là, qui essaient de s'aider, qui essaient d'entretenir des liens personnels, même de se faire
des amis et d'aider tout le monde qu'il connaît. Et ça, ça donne espoir, hein, en quelque
oui,
sorte.
Oui, ça donne de l'espoir. Malheureusement, ils sont à l'extérieur du pays. La difficulté pour moi, elle est plus à l'intérieur de la Russie, d'arriver à trouver cette solidarité de tous entre tous. Souvent, je trouve qu'elle s'exprime dans des groupes bien identifiés et encore une fois à l'égard d'individus qu'on connaît. Mais ça, tout peut changer à la faveur de la crise, effectivement.
Justement, ça vaut pour toutes les générations, qu'on soit jeune ou qu'on soit vieux, ou il y a une différence, ça bouge un peu plus du côté des jeunes?
Je pense que les jeunes ont quand même une culture qui est extrêmement hybride et hybridée d'expériences à l'étranger, d'expériences même dans l'imaginaire. La lecture qu'ils font, leurs sources d'information, leurs références culturelles sont différentes et il y a une construction. Je pense que le fond sur lequel peut s'appuyer le régime russe à l'heure actuelle, c'est quand même une question de pyramide des âges et c'est la plupart des soutiens, même passifs, dans la grande passivité au régime, ce sont des gens qui ont plus de 55 ans, pour qui le grand tabou c'est la guerre, donc ce qu'ils veulent éviter c'est la guerre. Donc cette passivité elle a été cultivée de manière tout à fait déterminée par les autorités, mais elle se heurte de toute façon, même si les plus âgés voulaient quitter le pays, à des difficultés très importantes.
Donc il y a une grosse différence aussi entre ceux qui veulent partir et ceux qui le peuvent.
Oui, oui, oui. C'est-à-dire que là, les départs qu'on a vus qui sont très impressionnants dans leur forme, dans leur quantité, parce que ça se passe à des endroits quand même très déterminés, ils nous frappent par leur rapidité, par la détermination. Ce sont des gens qui ont pris un passeport, une valise, et qui, en 24 heures, souvent parfois 48 heures, ont quitté le pays où ils ont vécu presque toute leur vie. Mais il y a encore plein d'autres gens qui y pensent, et qui y pensent en se disant « Oui, peut-être que moi, je vais passer à travers les mailles du filet », parce qu'il existe des manières de s'accommoder du régime ou d'obtenir que le régime vous laisse tranquille. On peut généralement, par la corruption, par les Vziatka, obtenir que quelqu'un détourne les yeux. Et je pense qu'on a été nombreux à penser à ça quand on a appris l'organisation de la mobilisation partielle. On s'est dit « Mais dans les commissariat militaire, mais des gens vont s'enrichir, ils vont avoir accès à de l'argent liquide, à des services. En fait, c'est ce qui va se passer. Pour détourner les yeux ou rayer quelqu'un d'une liste, nécessairement, beaucoup d'argent va circuler. On a vu en plus des retraits d'argent liquide très importants en Russie. C'est bien sûr les gens qui fuyaient et qui avaient besoin de ce liquide, mais je mettrais ma main à couper que c'était aussi pour donner pas mal de bakchiches.
Comment vous expliquez tous les deux que dans toutes les images qui ont circulé, qu'on voit nous dans nos médias de ces fuites, on ne voit aucune autorité russe arrêter tous ces départs?
Je pense que c'est en train de changer ici un tout petit peu, car on voit déjà qu'il y a des listes qui arrivent dans les points de passage de la frontière avec ceux qui sont plus autorisés de quitter la Russie. Pour moi, l'explication est simple. Il y a bien évidemment des Russes qui sont contre les pouvoirs qui restaient toujours en Russie, car il faut bien le dire, partir de la Russie, c'est un privilège en quelque sorte. Tout le monde ne peut pas le faire, au moins avant, ça coûtait extrêmement cher. Ici, il faut avoir de l'audace, il faut au moins parler des langues étrangères pour essayer après de s'introduire dans d'autres sociétés. Donc ça, c'est important. Maintenant, on voit que ça change, donc toutes ces personnes-là qui sont contre Vladimir Poutine, si jamais ils restent, si jamais ils vont dans l'armée, ça aussi, ils sont quelque part des émerdeurs. On peut bien dire ça, si on peut utiliser ce mot.
On peut utiliser ce mot, tout à fait.
Ce sont des émerdeurs qui ne vont pas faire bon ménage avec Vladimir Poutine, avec les autorités dans ce contexte-là. Donc, si jamais les autorités russes ont envie que cette mobilisation fonctionne, qu'en fait, ces personnes-là qui arrivent dans les commissariats, malgré leur volonté, vont aller à la guerre et qu'ils font quand même bataille, en quelque sorte, il ne faut pas qu'ils soient des personnes qui sont contre le pouvoir, donc il vaut mieux les laisser partir de point de vue de plus ou moins tranquille.
Donc, ça l'arrange, en fait, Vladimir Poutine?
Alors, je ne sais pas, moi j'ai le sentiment que ce n'était pas prévu, en fait, cet exode, quand même, que l'ampleur de cet exode n'a pas du tout été anticipée, mais qu'effectivement, le calcul politique pourrait être assez simple. Ça veut dire que presque automatiquement, mathématiquement, le soutien populaire ou la base stable du régime va devenir beaucoup plus homogène. C'est-à-dire, en quelque sorte, on aura écrémé le peuple russe. Le président russe a parlé, je pense que c'était en mars, de la purification ou de la purge nécessaire aussi de la population russe et qu'il voyait d'un bon œil le départ de ceux qui vivaient en Russie physiquement mais qui étaient dans leur tête en Occident. Eh bien, de ce point de vue-là, c'est en train de se réaliser. Comme est en train de se réaliser l'isolement de la Russie que Vladimir Poutine nous imputait en disant qu'on voulait isoler la Russie. Mais en fait, la politique de Vladimir Poutine, qui est une politique de désintégration de la Russie du système monde, est en train de créer pour lui un système extrêmement homogène d'une Russie qui sera certainement moins dynamique, qui aura beaucoup de rattrapage à faire pour revenir au niveau économiquement, mais peut-être que politiquement, il va jouir à nouveau d'une forme d'assentiment, peut-être silencieux, peut-être très passif, mais en tout cas, il est désormais libéré d'une bonne partie de ceux qui pouvaient élever une voix contradictoire.
Elsa, tu abordais le côté économique. Là, on vit une nouvelle phase avec cette mobilisation, mais cette guerre, elle dure depuis des mois. Au quotidien, ça se traduit comment pour les Russes? Il y a un impact très fort sur leur vie quotidienne?
Il y a un impact fort, selon moi, mais pas très fort, parce que le gouvernement russe est, à la différence de toutes les autres crises traversées par l'économie russe, disons les 15 dernières années, a injecté énormément de moyens pour amortir l'impact de cette crise. Malgré cela, on le voit dans de nombreux secteurs industriels et qu'on connaît déjà très bien, que sont l'automobile, l'aviation civile, mais aussi les semi-conducteurs, il y a un impact extrêmement déterminant. Maintenant, les prix ont augmenté. Ils augmentent en Russie d'à peu près 15-20% si on compare au taux d'inflation de l'année dernière. Ils vont probablement continuer d'augmenter. Et les sanctions, combinées à un passage croissant de l'économie au service de la guerre et en plus à un contrôle d'État, ça va venir impacter le quotidien des Russes. Après, il faut dire que les Russes, ils ont vu des crises financières si fortes que nous, les Européens, n'avons jamais connues, et des dévaluations, des pertes de pouvoir d'achat si importantes qu'ils sont non pas habitués, mais préparés à ce genre de situation. Et ils vont savoir passer en mode survie. C'est-à-dire que la dureté des conditions économiques en Russie, elle est en rien comparable à ce qu'un Français de moins de 60 ans a connu dans sa vie, jamais.
Ça, c'est confirmé par les messages que vous avez de vos familles, de vos proches qui sont toujours en Russie?
Oui, bien évidemment. Il y a une réalité économique qui est de plus en plus dure en Russie. Par contre, ce qu'on voit, bien que la Russie s'adapte plutôt pas mal à cette nouvelle réalité, notamment, il y a eu des entreprises qui ont quitté la Russie tout au début de la guerre. Je parle de plusieurs choses, des producteurs automobiles, puis des fameux restaurants qui ont également fermé leurs portes à Moscou. Par contre, ils étaient assez vite remplacés par les entrepreneurs qui essaient de remplir les vides qu'ils ont trouvé grâce à cette guerre, en quelque sorte. Donc, tout le monde essaie de gagner de l'argent pour profiter de cette crise économique. C'est pour ça que la population ne le ressent pas maintenant, là, tout de suite.
Puis à Moscou,
à Moscou notamment, mais aussi dans d'autres villes, en quelque sorte. Puis, toutes les personnes assez aisées, on peut dire, qui étaient habituées à conduire des voitures de luxe, en quelque sorte, maintenant, ils vont tout simplement les importer du point de vue un peu moins légal d'autres pays, en profitant aussi de taux de rouble qui est assez fort en ce moment-là, malgré toutes les crises qui est même beaucoup plus fort qu'il a été avant la guerre. Donc pour eux, rien ne change. Par contre, pour la population modeste, ce qui est important, c'est une crise majeure, une crise importante. Mais il ne faut pas penser que cette crise va amener un soulèvement populaire. Ça, c'est aussi qu'on a vu pendant toute ou presque l'époque de l'URSS. Il y a des crises, il y a même des périodes de famine qu'on a observées. Par contre, les effets sur la politique nationale, sur les politiques d'État, ils sont limités, voire inexistants.
Donc au fond, si je vous comprends bien, on s'adapte et le fait de s'adapter, ça retarde une éventuelle contestation plus importante.
Oui, et effectivement, d'une part, alors la guerre redistribue aussi fondamentalement des cartes. Et donc elle va ouvrir, comme le disait Denis, des opportunités à de nouveaux acteurs qui vont s'empresser de les saisir. Ensuite, effectivement, la majorité de la population russe va devoir faire face à des conditions de plus en plus difficiles, mais l'avis de cette population, de cette grande majorité et des plus vulnérables, compte très peu pour le pouvoir. Et les plus riches, eux, ont de quoi amortir les difficultés. Bien sûr, ils perdent l'accès à des comptes offshore, ils perdent la possibilité d'offrir un futur étranger à leurs enfants, ça c'est certain. Mais dans leur quotidien, dans le confort de leur quotidien, ils paieront peut-être un peu plus cher des biens qu'ils payaient un peu moins cher, mais qui de toute façon sont inaccessibles à la majorité de la population. Donc ce n'est pas un soulèvement économique auquel on peut s'attendre. On va au contraire, je pense, ressortir les vieilles habitudes d'économie, tous les trucs, le système d'éducation du quotidien qu'on connaît quand on est en Russie. Après, on va aussi voir tout le système des imports clandestins, des pièces de rechange qui vont venir de Chine. On va aussi... Et l'Iran, évidemment. On va trouver des fournisseurs qui sont très heureux d'avoir des débouchés en Russie. Et puis... comme on le disait, le système qui peut paraître très rigide sur le papier est un système en réalité qui a la capacité de s'adapter par l'argent, par la corruption. Et donc la corruption, c'est très problématique à plein d'endroits parce qu'on ne paye pas d'impôts, parce qu'on n'a pas de droit ouvert sur cet argent. Mais en même temps, cet argent, il permet l'adaptation permanente du système. C'est-à-dire qu'on va vivre dans une réalité officielle et derrière, les gens s'organiseront pour naviguer au mieux. On reverra des canaux de contournement des sanctions, etc.
C'est intéressant ce que vous dites parce que quand on lit la presse en Occident, qu'on regarde Internet, la télé... Tout le monde, au fond, a son analyse sur Vladimir Poutine. Là, le fait que tous ces gens s'en aillent, ça y est, c'était le début de la fin. Et en vous écoutant, on comprend que c'est beaucoup plus subtil que ça et que nous, occidentaux, finalement, on a un peu du mal à comprendre l'intérieur de cette Russie.
Oui, en fait, on est très tenté, quand on voit des phénomènes aussi massifs et aussi sortant autant de l'ordinaire, de conclure qu'on est entré dans une ère de changements fondamentaux. On est nombreux, bien sûr, à espérer ces changements, à penser qu'ils arriveraient pour le meilleur pour la population russe. Mais la réalité, c'est que d'une part, le pouvoir russe est extrêmement opaque. Ceux qui prennent les décisions au nom de la population russe n'ont absolument pas la contrainte de devoir tester leurs options comme en démocratie de manière assez ouverte. Et pour le coup, les sources en Europe auxquelles nous avons accès ne nous permettent pas d'anticiper quel va être le futur du pouvoir russe. On peut se fier à des signaux faibles. On peut encore une fois dire, là, on assiste à un phénomène inédit. De la même manière que pour moi, sont très inédites les attentats qu'on voit sur les commissariats militaires. Il y en a plus d'une cinquantaine. Ils ont commencé depuis le début de la guerre. Cette forme de réaction violente, c'est-à-dire d'action politique violente, pour moi, est inédite en Russie. Je ne sais pas si pour autant on va aller vers un renversement de Vladimir Poutine. Ce qui est certain, c'est que l'échec militaire à l'extérieur de la Russie le fragilise. La perte des soutiens qu'on lui pensait acquis, comme ceux de la Chine, de l'Inde, de la Turquie, le fragilise. Et on voit qu'il y a une opposition d'une partie de la population au projet de guerre. Est-ce que c'est suffisant pour que Vladimir Poutine perde ses appuis dans le système, pour qu'il soit considéré comme moins efficace, comme un moins bon garant des intérêts qu'il représente ? Ça, on est en grande difficulté pour le dire. Et ce qu'on voit aussi, c'est que si changement il pouvait y avoir, si contestation il y a aussi une contestation à l'intérieur du système, sur la droite de Vladimir Poutine, d'éléments qui sont plus radicaux, plus autoritaires. Et peut-être, quand je dis autoritaire, c'est notamment moins enclin à tolérer une forme de libéralisme économique, moins enclin à laisser des soupapes de respiration, et peut-être plus radicaux encore en termes d'usage de la violence. Il faut pouvoir en fait déterminer quels sont les acteurs importants, quels sont ceux qu'on peut laisser de côté, quels sont ceux qui commentent, quels sont ceux qui peuvent former l'agenda. Mais même comme ça, personne n'est en capacité de dire ce qui va se passer ni demain, ni dans une semaine. On sait qu'on a des jalons, c'est tout.
Merci beaucoup à tous les deux d'être passés dans Témoins d'actu. Je sais que vos agendas sont extrêmement chargés. Pour ceux qui lisent le russe, ce qui n'est pas mon cas, n'hésitez pas à vous rendre donc sur ce site en langue russe de RFI. Si vous avez envie d'écouter ou de réécouter l'épisode fait avec Denis Strelkov au début de la guerre, il est disponible sur toutes vos plateformes d'écoute à la date du 8 mars 2022, si je ne me trompe pas. À très vite.